la ferraille.
Somerton, la Dame Blanche de Mortemer, l'amnésique du Burger King, des chiens qui se jettent dans le vide, ce sont nos dossiers du jour dans le Bureau des Mystères.
Bonsoir et bienvenue dans le Bureau des Mystères, je suis Mathias. Et cette semaine, vous n'aurez pas Charles dans le Bureau des Mystères. Si vous avez écouté notre dernier numéro, vous savez sans doute que Charles doit s'absenter du bureau pendant quelques temps, pour des raisons tout à fait professionnelles. Et nous recevons cette fois-ci sa remplaçante de choix, sa remplaçante de choc, j'ai nommé Mimi. Comment ça va, Mimi ?
Ça va très bien. Je suis très contente de faire le Bureau des Mystères, car j'adore les histoires insolites, n'est-ce pas ? Et parfois inexpliquées, donc je suis ravie d'être là.
Les plus fidèles auditeurs connaissent peut-être Mimi, puisque si vous nous suivez depuis Inspiré de Ferrel, vous savez ce podcast qu'on faisait sur... Enfin, qu'on fait toujours d'ailleurs, sur les films inspirés de Ferrel, plutôt des films d'horreur. On avait enregistré déjà un épisode avec Mimi sur ça, le clown tueur qui faisait peur. Mais si vous ne la connaissez pas, Mimi va se présenter à vous peut-être.
Tout à fait, je suis donc Mimi, je travaille chez mademoiselle.com et j'y tiens notamment le podcast The Boys Club qui parle de masculinité, abonne-toi. Et je participe au podcast Laisse-moi kiffer où on est quatre bons cons de la rédac qui parlons de trucs qui nous font kiffer et c'est très marrant apparemment, on est content car c'était le but.
Et je confirme, c'est très très marrant, j'ai écouté,
beaucoup.
J'ai beaucoup aimé.
Si vous aimez les podcasts pas du tout écrits et pas du tout cadrés, essayez d'y jeter une oreille.
C'est un petit peu l'inverse du Bureau des Mystères effectivement. Mais Mimi, ça fait très longtemps qu'on se connaît maintenant et elle nous avait dit déjà précédemment, moi et Charles, qu'elle adorait les mystères et justement on se disait que c'était l'occasion qu'elle vienne nous raconter deux mystères dont elle nous avait parlé et qui nous intriguait au plus haut point. Et on va les faire tout de suite. En route pour les dossiers.
Le mystère de l'homme de Somerton. Le mystère de l'homme de Somerton, aussi appelé l'affaire Tamanshud, ou quand un cadavre inconnu sur une plage australienne au XXe siècle croise le chemin d'un recueil de poèmes persans du XIe siècle et génère un mystère aussi fascinant qu'impossible à résoudre.
Eh ben dis donc, tout un programme.
Alors, c'est mon histoire mystérieuse préférée du monde. Je suis à peu près obsédée par cette histoire depuis que je l'ai découverte, comme beaucoup d'histoires sur des fils Reddit, quels sont vos mystères inexpliqués préférés. Et je trouve qu'elle a beaucoup de charme, donc j'espère qu'elle vous plaira.
Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand on a lancé le Bureau des Mystères et qu'on a parlé de l'émission à Mimi, c'est la première histoire que je me suis dit « Ah, il faut absolument que vous fassiez cette histoire-là
!»
Et je suis très content de l'avoir dans l'émission pour qu'elle nous la raconte aujourd'hui. Elle est géniale.
Aussi. Nous sommes le 1er décembre 1948, il est 6h30 du matin, et le cadavre d'un homme est découvert sur la plage de Somerton, près de la ville d'Adélaïde en Australie. C'est un homme blanc, à peu près quadragénaire, entre 40 et 45 ans, qui est en très bonne forme physique, il mesure 1m80, il a les cheveux blonds, il ne montre pas de signe de pratiquer un travail manuel, il a les mains et les pieds en très bon état, il est rasé de près, du matin. Il porte des vêtements de bonne qualité. Il n'a pas de portefeuille ni de chapeau, ce qui est assez rare pour un homme de sa génération habillé de cette façon qui indique un certain niveau social.
Et c'est vrai que quand on est col blanc, donc l'histoire se passe dans quelles années, c'est ça ?
1948.
1948, ouais. C'est vrai qu'à cette époque-là, un col blanc est plutôt très bien habillé avec un chapeau, etc.
Tout à fait, surtout sur la plage, même si on est en décembre. Il n'a pas de portefeuille, donc il n'a rien qui permet d'indiquer son identité. Et détail surprenant, toutes les étiquettes de ses vêtements ont été découpées. Le corps n'a visiblement pas été déplacé, il a une cigarette intacte derrière l'oreille et une cigarette entamée dans le col de sa veste, on imagine qu'il l'avait à la bouche et qu'elle est tombée, qu'elle s'est à demi consumée et qu'elle est tombée dedans. Dans ses poches, il y a un ticket de train pas utilisé, un ticket de bus qu'il a de toute évidence utilisé pour venir sur la plage, un peigne, des chewing-gums, un paquet de cigarettes avec des cigarettes d'une autre marque dedans, une boîte d'allumettes, pas d'argent et donc, comme on l'a dit, pas du tout de papier d'identité.
Des cigarettes d'une autre marque
oui,
que celle qu'il est en train de fumer.
Tout à fait, en fait, disons, c'est comme s'il avait un paquet de Marlboro et que dedans, il y avait des Lucky. Une théorie autour de ça, c'est que, en fait, c'était un truc qui apparemment se faisait à l'époque. Tu mettais des cigarettes bon marché dans un paquet de cigarettes un peu classe
d'accord.
Pour faire genre, tu fumais des cigarettes
d'accord,
classe.
On comprend mieux.
Mais l'hypothèse ne se tient pas forcément, puisque les cigarettes intérieures, d'après des gens qui ont fait des recherches bien après... était plutôt, en fait, de meilleure qualité que le paquet. Donc, en gros, ça aurait dû être l'inverse.
Ah, peut-être quelqu'un qui essaye de se faire passer pour quelqu'un qui a pas trop d'argent.
Peut-être.
D'accord, je vois. Très bien. Très mystérieux, en tout cas.
Il y a des témoins qui disent qu'en fait, la veille au soir, ils ont vu un homme vers minuit qui lui ressemblait, qui était déjà allongé sur la plage, à peu près dans la même position. Et ils se sont dit qu'il devait être sous ou endormi. Donc, comme ils l'ont pas vu réagir ni à la tombée de la nuit, ni aux vagues qui brassaient sur le rivage, ils se sont dit qu'il doit être bourré ou dormir, ils l'ont pas dérangé. Donc, il est possible qu'il ait été là depuis un petit moment. Et qu'en fait il était déjà mort, et que les gens avaient pique-niqué tranquillement, fait des petites balades romantiques au clair de lune à côté de lui, mais bon, c'est la vie.
Ah, c'est... quelle difficile perspective.
Oui. Donc la police a conduit une autopsie, qui a estimé que l'heure du décès était autour de 2h du matin, donc il a été retrouvé, enfin les autorités ont été alertées à 6h30 du matin, et en fait il n'y a pas de cause claire de décès, donc le médecin légiste a dit qu'on ne pouvait pas écarter la thèse d'un poison... qui était vraiment intraçable, mais il n'y avait pas de vomissure, il n'y avait pas de traces de lésions dans les organes internes, donc il doutait un peu, il disait voilà, je veux pas annuler la possibilité, mais je n'ai rien non plus qui m'indique, c'est juste qu'il n'y a rien d'autre, donc peut-être que c'est ça. Comme il n'y avait aucune façon d'identifier l'homme, la police a donc diffusé sa photo et ses empreintes à échelle mondiale, et ça n'a donné aucun résultat.
D'ailleurs, c'est cette photo qu'on retrouve aujourd'hui sur internet un petit peu partout, du mec.
Il y a un mec bien habillé, en chemise-cravate, allongé, puisqu'il est mort sur la table d'autopsie. Alors, certes, en fait, quand on voit la photo, c'est vraiment monsieur tout le monde, quoi. En plus, elle est en noir et blanc. Mais c'est un mec blanc, cadra, un peu blond.
Un peu passe-partout, ça peut être n'importe qui.
Ouais, clairement, le mec le plus difficile à décrire du monde en termes de portrait robot. Il y a même, en fait, l'affaire prend tellement d'ampleur qu'il y a des gens qui disent à la police oui, je le connais, c'est machin. Et en fait, c'est pas du tout machin, et machin va à la police pour dire « c'est moi, je suis vivant, donc merci d'arrêter de me chercher, je suis là ». Et donc il y a diverses tentatives d'identification comme ça qui échouent parce que la personne se présente ou les policiers retrouvent la personne et elle est vivante, et ce n'est donc pas elle. Un mois plus tard, le 14 janvier 1949, il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire, puisqu'à la gare d'Adélaïde, donc la ville la plus proche de la plage, il y a une mallette qui a été découverte dans la consigne, qui a été enregistrée et jamais réclamée, donc 2 semaines avant, au moment de la découverte du corps. C'est une mallette sans étiquette qui contient une robe de chambre, des chaussons, des caleçons, mais pas de chaussettes. J'ai trouvé ça chou qui précise sur Wikipédia. Le mystère des chaussettes disparues. Un pyjama, un matériel pour se raser, un pantalon avec des traces de sable dessus, un tournevis d'électricien, un couteau qui a été aiguisé pour devenir plus coupant, des ciseaux à ongles qui sont aussi aiguisés, et un pinceau à pochoir comme ceux dont on sert sur les bateaux pour peindre des inscriptions. Plus du fil ciré, donc du fil à coudre mais recouvert de cire, d'une marque qui est très dure à trouver en Australie et qui est la même que celle utilisée pour repriser les poches de l'homme de la plage. Donc on part du principe que c'est probablement la mallette de l'homme de la plage, qu'il était arrivé à Adélaïde, qu'il avait pris une chambre d'hôtel, qu'il avait laissé sa mallette à la gare, qu'il s'était rasé dans les bains publics et ensuite qu'il était allé à la plage. Et
d'accord.
Qu'il était mort.
Mort à la plage dans des circonstances qu'on connaîtra peut-être jamais.
Probablement jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il y a trois étiquettes qui ont été trouvées dans les affaires de la valise, alors qu'il n'y en avait aucune sur l'homme. Elles ont toutes été retirées sauf trois qui mentionnent toutes le nom Keane, K-E-A-N-E. Ça se trouve sur une cravate, sur un sac à linge et sur un papier de blanchisserie. Il y a eu des soupçons de la part des autorités que peut-être la personne responsable de la mort de l'homme de la plage avait laissé volontairement ce nom comme fausse piste. Mais d'un autre côté, c'était les seuls endroits où on pouvait pas enlever le nom sans abîmer le tissu, donc c'est peut-être juste qu'il a voulu... il s'est dit ça passe et il a pas voulu abîmer ce qui aurait été peut-être encore plus suspect. Mais on ne sait pas non plus qui est ce Keane. Il n'y a aucun Keane porté disparu. C'est un nom qui ne renvoie à rien, c'est un nom assez commun.
Ouais, c'est très commun, ouais.
Qui ne renvoie à personne qui a été signalé disparu. Donc toujours, on n'avance pas beaucoup. En juin 49, donc 6 mois après la découverte du corps, il y a une nouvelle enquête médico-légale qui est ouverte, sachant que le corps a été embaumé, donc il peut encore être examiné, il n'a pas encore été enterré. Et le nouveau médecin légiste trouve notamment que les chaussures sont bien trop propres et immaculées pour avoir été utilisées pour marcher sur du sable. Donc la théorie, c'est que l'homme serait mort ou aurait été tué ailleurs et aurait été transporté sur la plage.
Déposé sur la plage, ouais, d'accord.
Sans que personne le voie. Bon, pourquoi pas, en même temps on est en décembre sur une plage australienne à minuit, peut-être qu'il n'y a pas tellement de passages que ça.
Et est-ce que la mallette permet d'identifier quel type d'homme c'était ? Parce que j'imagine que du coup, maintenant qu'ils savent que la mallette est reliée à cette personne-là, ils ont pu essayer d'enquêter sur quel type de personne c'était. Est-ce que par exemple c'était... Je pense à une autre histoire dont on parlera peut-être dans le bureau des mystères un jour, qui est la femme d'Isdal, où on s'est demandé si elle était agent secret, simplement. Est-ce que cette personne-là, c'est des questions qu'on s'est posées à ce moment-là ?
Alors oui, c'est des théories, on en parlera un peu plus tard, c'est des théories qui ont été soulevées, le fait que peut-être c'était un espion, ou quelqu'un qui avait en tout cas un lien avec l'armée, avec le côté très propre sur lui, mais en même temps pas de signe de travail manuel, donc peut-être que c'est un dignitaire ou un espion ou un ambassadeur, en tout cas de façon un peu secrète. Mais après, dans la mallette en soi, il n'y avait pas grand-chose qui en disait plus, c'est un homme soigné, voilà, tout D'accord. était bien plié. Il y avait de quoi se raser, il avait un peigne, tout ça, mais à part ça, on n'en sait pas plus. Alors, j'ai vu que sur un article, ils disent que l'homme avait été identifié comme probablement britannique. Je sais pas trop à quoi, mais ok, je vais croire.
Éventuellement, le nom de famille qui sonne effectivement un petit peu britannique, mais
si c'est
à part ça.
Son nom de famille.
Si c'est vraiment son nom de famille, ouais.
Disons que je sais pas ce qui différencie un cadre blond britannique d'un cadre blond australien, mais peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons de le penser.
Alors, vivant, je t'aurais dit l'accent, mais mort,
ouais.
c'est
peut-être
compliqué.
Peut-être le bronzage.
Peut-être le bronzage, effectivement.
Et donc, dans cette nouvelle enquête médico-légale, en plus de ce détail au sujet des chaussures, ils ont trouvé ce qui a donné son nom à l'affaire Taman Shud. Dans la poche du pantalon, ils ont trouvé ce qui avait échappé aux premières recherches, un morceau de feuille de papier avec inscrit dessus Taman Shud, qui est une inscription trouvable à la fin des Rubaiyat, des poèmes du poète très célèbre Omar Khayyam, qui les a écrits en perse au XIe siècle. Donc c'est un recueil de poèmes qui a connu du succès en Occident, notamment au XVIIIe et XIXe siècle, et qui a été édité dans plusieurs éditions, dont une première édition assez rare, qui comportait les mots Taman Shud sur la dernière page, écrit avec cette typo. Donc on a une piste, mais c'est un bout de papier arraché. Et un mois plus tard, en juillet 49, un homme se présente à la police, parce que donc la police a communiqué dans les journaux autour de cette page arrachée, et il dit qu'un jour, il a trouvé, une ou deux semaines avant la découverte du corps, dans sa voiture qu'il avait laissée ouverte pas très loin de la plage, sur le siège arrière, il a trouvé un recueil des Rubaiyat d'Omar Khayyam avec la dernière page qui manquait. Et avec une analyse microscopique, ils ont trouvé que c'était cette page-là qui avait été arrachée.
Ah putain, ouais, ils ont comparé, ils ont bien vu que c'était le...
C'est la même déchirure, et donc c'est bien le recueil dont a été arrachée cette page qu'on a trouvé dans la poche de pantalon du mort. Et l'homme, c'était pas son recueil. Quelqu'un l'a mis sur le siège de sa voiture qu'il avait laissée ouverte.
Ah, donc c'est-à-dire que peut-être, potentiellement, avant de mourir, le mec a planqué, en fait, ce truc. Et j'imagine qu'il y a des choses dans ce...
Tout à fait.
Évidemment. Parce qu'il n'aurait pas pris le soin de le cacher avant de se faire tuer si...
Voilà, il y a des choses,
pas des choses
écrites
dedans.
Dans cette première édition des Rubaiyat. Donc sachant que le fait que le corps soit lié à ce recueil de poèmes, en fait le message qu'on peut tirer des Rubaiyat d'Omar Khayyam, c'est l'importance de vivre sa vie intensément pour n'avoir aucun regret au moment de la mort. Donc il y a des gens qui ont lié ça à un possible suicide. Peut-être que c'était un indice que l'homme a laissé pour dire qu'il avait vécu tout ce qu'il avait à vivre et qu'il mourrait sans regret. Mais bon, c'est pas une hypothèse qui est beaucoup plus solide que celle de l'empoisonnement, finalement. Et au dos du livre, ils ont retrouvé 5 lignes de lettres en capitales, la deuxième étant barrée et reprenant en dessous, donc l'hypothèse c'est qu'il a commencé à l'écrire, il s'est trompé et il l'a réécrite, et en fait c'est un code, en tout cas c'est des suites de consonnes qui n'ont aucun sens. Je vais vous lire la première, c'est WRGOABABD. Voilà. Et donc t'en as 4 comme ça. Le code a été analysé par le département de la défense australien et ça n'a donné aucune explication satisfaisante. Donc à ce jour, il n'a toujours pas été craqué. Et au dos du livre, en plus du code, ils ont trouvé un numéro de téléphone. Donc ils l'ont appelé et il appartient à une ancienne infirmière qui habite pas très loin de la plage de Somerton et qui explique qu'elle possédait auparavant une copie des Rubaiyat qu'elle a donnée pendant la guerre à un lieutenant du nom de Alfred Boxell et qu'elle n'a pas revu depuis. Il y a aussi une circonstance un petit peu étrange autour de cette infirmière, puisqu'elle prétend être mariée, alors que non, elle vit en concubinage avec un homme, mais elle n'est pas mariée. Elle a notamment prétendu être mariée auprès de la police et des journaux pour dire qu'elle ne voulait pas avoir sa photo diffusée, parce qu'elle ne voulait pas impliquer son mari, alors qu'en fait, légalement, elle n'est pas mariée. Mais on peut considérer que c'est peut-être un abus de langage aussi de l'époque.
Oui, s'ils sont depuis longtemps ensemble, ouais, ça arrive.
Et elle avait notamment aussi éconduit le fameux Alfred Boxall à qui elle avait offert ce recueil de poèmes lorsqu'il a essayé de la recontacter après la guerre en lui expliquant qu'elle était mariée. Ce qui, encore une fois, n'est pas vrai, mais peut-être.
C'est ce qui peut-être est une solution juste... très pratique pour se débarrasser d'un relou qui...
Voilà. C'est l'équivalent du « non, j'attends mon mec » qu'on dit maintenant quand il y a des relous. Le harcèlement de rue, c'est mal. Et surtout, ils lui ont fait, pour être sûr, ils lui ont fait examiner une reconstitution du buste de l'homme de la plage qu'ils avaient moulé dans du plâtre avant de l'embaumer. Elle a apparemment eu un mouvement de recul très vif, et elle a failli s'évanouir, mais elle a quand même prétendu qu'elle ne le reconnaissait pas, et qu'elle ne savait pas qui c'était.
C'est...
les meufs prouver.
Qui vont tous les signes physiques pour qu'elle le reconnaît, elle fait non, absolument
Michel
pas.
Non, je ne sais pas qui c'est. Et le fameux Alfred Boxall a été retrouvé par les autorités, enfin il s'est présenté, et il n'est pas du tout mort, donc ce n'est pas lui l'homme de la plage, et il est toujours en possession de son exemplaire des Roubaillettes, qui n'est pas de la même édition. Donc il est possible que l'infirmière soit une fausse piste, mais il y avait quand même son numéro au dos de l'exemplaire.
Oui, on peut se demander ce qu'il foutait là, ce numéro quand même.
Elle dit qu'elle n'en sait rien et qu'elle ne voit pas pourquoi quelqu'un aurait noté son numéro.
Moi qu'elle soit également une espionne sous couverture.
Peut-être. Donc le corps de l'homme de la plage a fini par être enterré, puisque l'affaire reste ouverte, mais il n'y avait plus tellement de raison de le garder, ce pauvre homme, sans sépulture. Et il y a eu pas mal de monde qui est venu à son enterrement, parce qu'il y avait une émotion populaire autour de ce cadavre sans nom et de cet homme qui peut-être n'aurait jamais... Enfin, sa famille ne pourrait pas se recueillir, etc., sachant que sa photo a vraiment été diffusée à échelle mondiale et que personne...
Et ça, puis j'imagine que de la médiatisation de l'affaire a fait aussi que des gens étaient passionnés par le mystère, oui. Et ils ont peut-être voulu assister aux funérailles, justement, par fascination pour l'affaire, quoi.
Oui, et d'ailleurs, sa tombe est restée fleurie pendant un moment, et les policiers ont de temps en temps interrogé des gens, des femmes notamment, qui allaient fleurir sa tombe en leur demandant si elles le connaissaient, etc., et toutes répondaient non. Peut-être qu'il y en a une dans le lot qui a menti, on ne sait pas. Le code au dos du bouquin n'a toujours pas été craqué, donc la suite de lettres que vous pourrez retrouver dans la description du podcast, si vous voulez, il y aura un lien, si vous voulez essayer vos talents de craqueur de code. Il y a eu des hypothèses, mais qui ne donnaient rien de plus probant que ça, et il y a donc à la fois des amateurs et des services de renseignement officiels, dont ceux de la CIA, qui se sont penchés dessus et qui n'ont jamais réussi à décoder, ce qui peut être tout simplement expliqué par le fait que c'était un code qui était très personnel à l'auteur, et que du coup, sans éléments de référence... aucun
c'est
moyen
impossible
de savoir.
À craquer, ouais.
Donc l'affaire est toujours ouverte. Les théories les plus populaires sont celles d'un espion soviétique, puisque c'était le début des tensions entre l'URSS
oui, exact,
et ouais. Le reste du monde en général, notamment les alliés, donc si l'homme était effectivement britannique, ça se tient. Que ce soit le père de l'enfant illégitime de l'infirmière, puisque l'infirmière a un fils, et il y en a qui trouvent qu'il ressemble un petit peu à l'homme de la plage. Et à ce jour, les autorités de la ville d'Adélaïde refusent d'exhumer le corps pour des prélèvements ADN, sachant qu'il reste quelques cheveux sur lesquels on pourrait faire des prélèvements, car ils jugent qu'il faut une raison d'intérêt public qui dépasse la simple curiosité. Ce que je peux comprendre, puisque exhumer un corps, c'est quand même souvent vu comme profaner une sépulture et le repos d'une personne.
Et juste par curiosité, c'est vrai que c'est...
D'un autre côté, j'ai vraiment très envie de savoir.
Et d'un autre côté, j'aime bien moi, que le mystère reste entier. C'est un des rares mystères, je trouve, du monde qui reste à ce jour entièrement entier. On ne sait pas qui est la personne. On ne sait pas comment elle s'est retrouvée là. On ne sait pas pourquoi il avait cette page arrachée. On ne sait pas quel était le code. C'est tout dans cette histoire est mystérieux. Et on n'a absolument aucune réponse.
Grave. Et c'est vrai que... la réponse risque d'être vraiment décevante si on l'a un jour, même si en fait c'est un espion soviétique, c'est des choses qui font partie tellement du passé que ce serait un petit peu genre « Ah, ok. »
Ah, c'était ça. Okay. Ah, c'est décevant.
Oui.
Donc c'est pour ça, je veux dire que le degré de mystère donc, est à des sommets, je crois que c'est un des plus gros mystères qu'on a fait dans l'émission en termes de niveau, quoi, parce que c'est un truc où il n'y a aucune réponse, absolument aucune
et
réponse.
Et en même temps, il y a assez de trucs bizarres pour que ce soit dur de se dire c'est juste un mec qui, je sais pas, qui a fait un arrêt cardiaque ou une histoire sordide, parce que il n'y a pas de... Enfin, si ça avait été un meurtre un peu mal foutu, on trouverait des signes de comment il est mort, des signes de poison, donc pour l'instant l'hypothèse c'est que c'était de la digitaline qui a pu être utilisée car elle provoque très peu de signes physiques, mais quand même souvent des vomissements, donc il n'y avait même pas de vomissements, et toute l'histoire des étiquettes qui ont été enlevées, de la page de poème dans la poche, de pourquoi il n'avait pas de papier d'identité, enfin, il y a assez de trucs shady pour qu'on puisse se dire qu'il y a une vraie histoire qui mériterait d'être racontée, et en même temps, peut-être qu'on serait déçus, effectivement, si elle était racontée.
En tout cas, l'affaire chez nous restera non classée.
Tout à fait.
Le pont maudit d'Overtoun. On raconte que plus de 600 chiens auraient sauté du pont d'Overtoun en Écosse. Se sont-ils suicidés? Ont-ils été poussés par le diable en personne ou victimes des fantômes d'un manoir à côté? Le mystère est longtemps resté entier. Alors je vous emmène aujourd'hui au cœur de l'Écosse, à Milton, dans le bourg de Dumbarton, où l'imposante silhouette du manoir d'Overtoun se découpe à travers les arbres. Cet édifice, qui a été construit en 1862, surplombe le fleuve Clyde, et pour relier les ailes est et ouest du château, qui sont séparées par un cours d'eau, le propriétaire a fait construire un pont. Le pont d'Overtoun a été inauguré en 1895, et il se traîne depuis plusieurs dizaines d'années une sinistre réputation. Composé de trois grandes arches, avec chacune deux parapets en forme de petites tours, le pont serait maudit. En 1995, un siècle après sa construction, il a fait la une de nombreux journaux britanniques. Cette année-là, un border collie, le très mignon Ben, a sauté au-dessus d'un des parapets. Il a fait une chute de 15 mètres avant de finir dans le fleuve. Les blessures étant trop importantes, le pauvre chien a dû être euthanasié.
Tu sais, il y a un site internet qui s'appelle Does the Dog Die, où tu peux aller taper le nom d'un film pour savoir si le chien meurt dedans, pour pas être mal au moment de regarder le film. J'aimerais qu'on ait Does the Dog Die Podcast, où on pourrait avoir tous les podcasts où les gentils chiens y meurent.
Je suis désolé pour toutes les personnes qui aiment beaucoup les chiens, c'est une histoire qui est un peu triste pour les chiens malheureusement. En tout cas, ce triste fait divers-là avait grandement ému le public à l'époque, et forcément il y a certains tabloïds qui ont commencé à creuser, hein, puisque je vous rappelle qu'on est au Royaume-Uni et que là-bas c'est le royaume des tabloïds. Et c'est à ce moment-là en fait, à partir du moment où les tabloïds ont vraiment commencé à creuser, qu'Overton a acquis sa réputation de pont maudit. Selon le Daily Express, qui est loin d'être le journal le plus réputé du monde, soit dit en passant, mais qui a quand même beaucoup de lecteurs, 600 chiens auraient sauté du pont depuis sa construction et 50 seraient morts à cause de la chute. Entre les années 50 et 60, il y aurait même eu un pic avec un chien mort par an. Après la première grosse vague d'articles en 95, on a beaucoup reparlé d'Overton en 2006, quand des scientifiques ont essayé de percer le mystère du pont. Un mystère bouleversant, comme l'avait dit un représentant de la SPA écossaise, qui était profondément attristé par toutes ces morts de chiens. Alors à présent, on va plonger dans les hypothèses, telles des chiens, depuis le pont d'Overton. C'est triste.
Cette vanne.
Ouais, elle était un peu écrite, et j'aurais peut-être pas dû, parce que c'est triste quand même, c'est vraiment triste. En tout cas, il y a beaucoup d'hypothèses qui circulent autour de ce pont-là, depuis 2006, à partir du moment où il y a des scientifiques qui ont commencé vraiment à essayer d'enquêter dessus, et avant eux, il y avait quelques hypothèses, mais là on était vraiment sur du paranormal pur et dur en fait. Pour bon nombre de ces amateurs-là de paranormal, l'explication était vraiment toute trouvée, c'était que le pont était hanté, tout simplement. C'est ce qui arrive voilà, régulièrement. Il y a beaucoup de tabloïds qui ont rapporté des rumeurs de hantises qui existent autour du pont en lui-même et autour du manoir très ancien qui est à côté. On dit qu'il serait habité par des fantômes qui prendraient un malin plaisir à malmener les chiens et à les attirer vers le précipice. Des fantômes pas très cool donc, mais le plus célèbre d'entre eux c'est Lady Overton qui elle était vraiment plutôt pas très très cool du tout puisque c'est l'ancienne maîtresse du manoir et elle aimait passer du temps sur le pont de son vivant. Elle entrait depuis sa mort en 1931 le pont et elle prendrait voilà, ce plaisir à jeter les pauvres chiens du pont.
C'est à la fois pas cool et en même temps ils s'attaquent pas aux humains quoi. Bizarrement c'est que les chiens, pas les autres animaux et pas leurs maîtres, c'est juste on va troller les chiens,
c'est ça.
Ça fera la bite aux humains vivants.
Pourquoi ? En tout cas, c'est vraiment pas cool de s'attaquer à des chiens.
Non,
aux chiens. Donc moi, je crois pas qu'il y ait un fantôme qui précisément s'attaque à des chiens, ou alors ce serait vraiment un fantôme vraiment pas gentil.
En fait, faudrait qu'il ait une backstory. Genre Lady machin, elle a été mordue par un chien, ou elle a eu un enfant qui a été défiguré par un chien, et là t'es là, ok, elle a une dent contre le chien, ça marche. Sinon c'est juste pas cool quoi.
En l'occurrence, c'est pas le cas à Overton, donc en fait elle a même pas de raison de jeter des chiens du pont. Alors par contre, et là c'est une autre hypothèse, on assure également que le diable en personne les pousserait à sauter du pont, ce qui est quand même déjà plus le truc du diable de s'attaquer à des pauvres animaux innocents et de les jeter dans le vide. Le pont serait donc maudit soit par le diable, soit par un fantôme, et un fait divers survenu en 1994 n'a pas du tout arrangé la réputation du pont, puisque Kevin Moy, qui était un habitant des environs du coin près d'Overton, a jeté son bébé du haut du pont, et il disait que son fils était l'antéchrist, et que c'est pour ça qu'il avait jeté du pont. Alors ensuite, il a essayé de se suicider en sautant du pont, mais lui a survécu, et la justice a estimé assez logiquement qu'il était fou, et il a été envoyé en hôpital psychiatrique, dont il n'est toujours pas sorti, fort heureusement. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ce fait divers-là a encore une fois ajouté une aura de mystère autour du pont, et la dernière hypothèse paranormale, c'est que Overton serait tout simplement un pont entre notre monde et celui des morts. On sait que les ponts, généralement, sont utilisés comme des manières de représenter un lien entre le monde des morts et le monde des vivants. Ce serait littéralement le cas à cet endroit-là, parce que dans la mythologie celtique, la zone est considérée comme un endroit où l'espèce de voile entre la terre et le monde des morts serait particulièrement fin, donc peut-être que ce pont mènerait dans l'au-delà. Les experts du surnaturel sont globalement d'accord là-dessus, et...
J'adore cette phrase, les experts du surnaturel sont globalement d'accord là-dessus.
Je mets de gros guillemets à experts, évidemment, mais c'est, voilà, c'est en tout cas toutes les personnes qui se passionnent pour le paranormal, c'est une hypothèse qui, pour eux, mais globalement plutôt pas mal, d'autant plus que voilà, on sait que les animaux sont souvent plus sensibles que nous au surnaturel, enfin en tout cas c'est ce qu'ils disent, je dis on le sait, non, c'est ce que ces personnes là disent, et du coup c'est pour ça peut-être que les chiens seraient plus attirés vers cet endroit là que les humains, parce qu'eux seraient plus sensibles. Cette hypothèse toutefois ne convient pas à tout le monde, puisqu'il y a une médium qui s'appelle Marie Armure, qui a tenté l'expérience avec son labrador. Elle est allée, donc elle elle dit oui, je ressens des choses, ça. Donc elle est allée là-bas pour vérifier si elle en sentait. Sauf qu'elle a dit que tout était calme, particulièrement serein, genre beaucoup plus calme que dans des endroits genre en ville ou quoi que ce soit. Et bon, elle admet que son chien a un petit peu tiré la laisse au niveau du coin droit du pont, c'est-à-dire précisément là où les chiens auraient pour la plupart fait le grand saut. Donc quand même un petit peu mystérieux tout ça.
Peut-être qu'il y a des heures d'ouverture du monde des morts. Elle est tombée un dimanche à 15h, donc le monde des morts était fermé, rien à voir, tu vois. Et en fait, lundi à 17h, c'est la folie, il y a des écureuils fantômes qui sautent et tout. Et du coup, les chiens,
c'est
là,
possible.
Yes.
Si on écarte l'hypothèse des fantômes, parce que bon, voilà, j'ai toujours du mal à croire aux hypothèses totalement surnaturelles, je pense souvent qu'il y a des raisons scientifiques derrière. On peut en arriver à une hypothèse qui a été réellement formulée, et j'ai du mal à dire cette phrase, les chiens peuvent-ils vraiment être suicidaires ? Vaste question, des études montrent en tout cas que les chiens ressentent les émotions de leur maître. Ça, c'est scientifiquement, voilà, ça a été prouvé. Et dans le coin, près d'Overton, les gens sont particulièrement déprimés. Il faut le savoir, à Dumbarton, l'économie est depuis longtemps en chute libre. Le bourg est considéré comme un des endroits les plus déprimants du Royaume-Uni. Et entre 2003 et 2006, le taux de suicide chez la population adulte a bondi de 200%, au point de devenir la principale cause de mortalité chez les jeunes. Donc on est sur un endroit où il fait pas très bon vivre, globalement.
En plus, t'as une chance que ton chien saute du pont. C'est-à-dire
voilà.
Qu'un des rares moments sympas de ta journée qui est balader ton chien, peut-être ça va mal finir.
Exactement. Et ce qui est fou, c'est que quand je dis que c'était une des principales causes de mortalité chez les jeunes, c'est que ça dépassait même les accidents de la route. C'est-à-dire qu'il y avait plus de gens, de jeunes qui se suicidaient que de jeunes qui avaient un accident de la route, quoi. C'est quand même fou. Alors, à ce moment-là, tu te dis, est-ce que les chiens ont pu, vu qu'ils ressentent les émotions de leur maître, concrétiser les pulsions suicidaires de leur maître ? A priori, ce serait pas le cas selon des experts du comportement canin qui ont vraiment étudié la question. En fait, chez les humains, on a envie de se suicider parce que on a la sensation que demain sera jamais meilleur qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit vraiment pas le bout du tunnel, on se dit à chaque fois ça va être pire que la journée que je suis en train de vivre. Sauf que selon ces experts canins, rien ne prouve que les chiens savent différencier aujourd'hui et demain en fait. Donc ils n'ont pas de notion de est-ce que demain va être mieux qu'aujourd'hui, puisque pour eux aujourd'hui et demain ça n'existe pas. La notion du temps est très différente chez les animaux. Donc on peut se dire que non, ils vont pas se suicider parce qu'ils sont déprimés. Alors, je vais en venir à l'explication scientifique, qu'on attendait un petit peu, qui nous a été portée par David Sexton, qui est un expert en comportement animal, qui est allé à Overton en 2006. Alors, David Sexton, c'est un membre de la Royal Society for the Protection of Birds and Wildlife, donc c'est un mec qui sait de quoi il parle, il connaît bien les animaux, et à son arrivée, il a essayé de se mettre dans la tête d'un chien pour comprendre ce qui a pu se passer. Donc il a éliminé d'emblée un éventuel problème de son ou de vision, parce que le pont d'Overton est en granit, donc déjà ça camoufle un petit peu le son, et il est au niveau de la taille pour un humain. Donc pour un chien qui est au sol, en fait il voit quasiment rien. Et comme le granit est épais et qu'il n'entend rien, ça perturbe un petit peu les repères des chiens, si tu veux. Et c'est peut-être pour ça que les chiens seraient totalement désorientés sur ce pont-là, au point éventuellement de sauter. Parce que pour eux c'est impossible de savoir qu'on est sur un pont en fait. Ils ont l'impression d'être à l'intérieur, et... du coup, c'est tout ce qui se passe pour eux, vu que la vision est légèrement altérée et qu'ils n'ont pas l'ouïe, ça se passe au niveau de l'odorat. Et la plupart des victimes, d'ailleurs, appartenaient à une race qui a un odorat fin. La plupart, c'était des labradors ou des collies, donc c'est-à-dire des chiens qui ont un museau assez allongé et qui ont l'odorat très développé. Et David Saxon a remarqué qu'il y avait des traces de visons près du pont. Ces petits mammifères qui dégagent une odeur assez puissante, notamment lorsqu'ils urinent. Donc il a fait un test.
Je suis désolée, est-ce que ça va s'entendre du coup ?
Je ne sais pas. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, nous enregistrons actuellement chez Mimi, où il y a son chien, mais son chat, qui aime bien sauter sur des choses.
Voilà. Si vous entendez des bruits comme ça, c'est mon chat, et je vais l'empêcher de ronronner dans le micro.
Voilà. Là. Il vient de s'approcher du
Merci
micro,
de ne pas,
très près. Voilà.
Désolé.
Je crois que je parlais de visons.
Oui, tout à fait, le vison, désolé.
Les visons, donc, qui sécrètent des odeurs assez puissantes, hein, et qui peuvent attirer... effectivement, les chiens. Donc David Saxon a fait un test, il a pris 10 chiens, et il a observé ceux qui se dirigeaient vers un emplacement qu'il avait marqué avec de l'urine de vison. Et sur les 10 chiens, il y en a seulement 2 qui n'ont pas trouvé l'endroit. Il y en a 8 qui sont allés directement à l'endroit où il y avait le vison. Genre assez rapidement, quoi. Donc comme ils ont été irrésistiblement attirés par l'odeur de l'urine de vison, il s'est dit que peut-être il y avait des visons en dessous du pont, et que tout simplement, en fait, vu qu'ils avaient tous les autres sens altérés, eh ben, ils couraient directement dans cette... par curiosité, en fait, ils couraient directement dans cette direction-là, et ne sachant pas qu'ils étaient sur un pont, ils ne pouvaient pas savoir qu'ils allaient sauter de 15 mètres et potentiellement mourir, quoi. Il faut aussi noter que la pluie donc l'eau hein, en règle générale, atténue l'odeur des visons, et que la plupart des morts de chiens se sont justement produites des jours où il y avait, c'était des journées particulièrement sèches et ensoleillées. Donc des journées où l'odeur des visons pouvait être le plus fort possible, quoi. L'hypothèse des visons s'explique aussi parce que dans les années 50 à 60, dans cette région-là, donc c'est la période où il y a eu le plus de morts de chiens, hein, comme je disais tout à l'heure, il y avait les visons qui ont été très 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 nombreux dans la région. Donc justement, tu peux expliquer ce pic-là, cette augmentation, par le fait que bah, plus de visons, donc plus d'odeurs, donc plus de chiens qui vont aller sauter. Après, des visons, il y en a un petit peu partout en Écosse, hein, donc on pourrait se demander pourquoi les chiens sautent que du pont d'Overton. Et bah c'est justement à cause de ce problème d'altération de la vision et de l'ouïe qui fait qu'ils se concentrent à fond sur l'odorat et qu'ils le suivent aveuglément, quoi. Donc selon David Saxon et David Sens, qui est un autre expert en comportement animal, ils ont travaillé conjointement sur le dossier vers la fin, donc c'était donc ça, assez récemment, selon eux, c'est tout simplement la curiosité qui aurait tué les chiens, donc pas d'histoire de diable, pas d'histoire de fantôme, juste malheureusement cette odeur trop forte et cette ouïe trop cet odorat trop développé, quoi. Alors le dernier truc qui arrive, et c'est là que ça devient encore un petit peu plus étrange, c'est qu'il y a un chasseur du coin qui s'appelle John Joyce, qui s'est confié dans une émission en 2014, et lui il dit qu'il habite à Overton depuis 50 ans, et qu'il n'y a jamais eu de vison à cet endroit-là, dans la forêt. Il connaît très très bien le coin, parce qu'il y chasse assez régulièrement, notamment du vison, et il dit, à cet endroit-là, près du pont, il n'y a jamais eu de vison ces 50 dernières années, donc ça ne peut pas être l'explication. Alors, quelle que soit l'explication, surnaturelle, scientifique ou toujours mystérieuse, avec le témoignage de ce chasseur, qui est, je précise quand même, le seul à dire ça, voilà. Peut-être qu'il veut entretenir l'aura de mystère autour du pont d'Overton, c'est possible. En tout cas, il y a les autorités locales qui ont quand même placé un panneau à l'entrée du pont, où il y a marqué « Gardez vos chiens en laisse », c'est quand même un peu plus prudent, on sait jamais. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses du degré de mystère de cette histoire, Amine ?
Moi, en règle générale, je suis une personne qui... a plutôt très peur du paranormal, parce que j'arrive pas à me dire que si un truc existe, tous les autres n'existent pas. C'est-à-dire, je peux pas me dire je crois aux fantômes, mais pas, je sais pas, aux démons ou aux monstres, tu vois. Et j'ai vraiment pas envie de vivre dans un monde où les fantômes et les monstres et les démons et tout existent. Donc j'ai envie de dire, ok, super, c'était une histoire de vison, les chiens sont des bons chiens, sont dans des races qui sont faites pour trouver les odeurs, d'où qu'ils ont foncé, ok. Je trouve ça quand même bizarre que... Enfin, je me dis, il doit y avoir d'autres ponts autour du monde qui ont cette... Enfin, qui mélangent le pont avec une visibilité réduite, avec une matière qui altère les sons, avec une forêt autour, donc je trouve ça un peu bizarre que ça arrive quand même.
Alors, je peux peut-être te rassurer un petit peu sur ce point-là, parce que même si pour moi le degré de mystère du pont d'Overton reste quand même un petit peu élevé, parce qu'on ne saura jamais vraiment totalement ce qui se passe là-bas, les propos de John Joyce, le chasseur, moi, m'avaient beaucoup surpris, donc j'ai cherché un petit peu à creuser davantage pour savoir s'il disait des conneries ou pas. Et je suis tombé sur un article de Brian Dunning, c'est un débunker du paranormal, qui a le blog Skeptoid, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé dans l'émission. Lui, il a cherché des preuves de disparition des chiens. Genre, est-ce qu'il y a eu autant de... Parce que là, on parle de plusieurs centaines de chiens, bon, certes étalés sur deux siècles, mais c'est quand même énorme. Et lui, il en a trouvé que trois. Il n'a trouvé que trois preuves de disparition de chiens, donc... Bien sûr,
peut-être l'affaire a été un petit peu montée en épingle aussi.
Par la presse, ouais, par les tabloïds britanniques. C'est tout à fait possible.
Par ces grands journaux très sérieux dont tu parlais.
Exactement. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand tu commences à regarder des histoires sur le pont d'Overton, tu tombes principalement sur des émissions américaines sur le paranormal, donc qui en font toujours un petit peu des caisses, ou sur des tabloïds britanniques qui en font souvent des caisses. Et quand tu vas dans des sources un peu plus sérieuses qui parlent du pont d'Overton, notamment CNN ou quoi, là, ils mettent pas le chiffre de plusieurs centaines de chiens, ils parlent bah, des cas qui ont été rapportés dans la presse, quoi. Donc, effectivement, tu en trouves 3-4. Et là-dessus, encore, c'est très difficile pour un internaute lambda de trouver des preuves. Et en fait, tu es obligé de faire confiance à ces médias-là sur le chiffre. Tu peux pas aller les vérifier quelque part, tu peux pas appeler le... C'est pas comptabilisé, quoi. Donc tu peux pas le savoir. Tu peux juste lire un article d'un journal plus ou moins sérieux comme le Daily Mirror qui te dit « Oui, 600 chiens sont morts. » Et dire « Ok, d'accord, mais quelle est la source ?» Tu vois, ouais. C'est toujours difficile d'obtenir la source là-dessus. Donc moi, en l'absence de tout ça, vu qu'on peut pas vérifier, le mystère bah, reste... en suspens, puisque c'est très compliqué de le savoir, mais c'est aussi très compliqué de classer l'affaire. Parce que, voilà, je me demandais si on classait l'affaire ou non. Déjà, non, parce qu'il y a encore un chien qui a sauté pas plus tard qu'en 2014, donc c'était pas très longtemps. Donc voilà. Et heureusement, il a survécu, je tiens à rassurer les auditeurs, hein, parce que vous l'avez vu, il disait 600 chiens qui sautent, 50 qui meurent, donc c'est pas non plus, voilà, enfin on peut les sauver, même s'ils chutent de 15 mètres, ce qui est énorme en soi. Donc pour moi, le dossier ne peut pas vraiment être classé pour le moment, et on est obligé de le laisser en suspens.
L'affaire Benjamin Kyle, ou l'amnésique du Burger King. Une histoire entre mystère et tristesse, comme une réflexion sur notre rapport au souvenir, à l'identité et au lien social qui nous unit jusqu'à se rompre. Nous sommes le 31 août 2004 et il est 6h du matin. Le personnel d'un Burger King à Richmond Hill, en Géorgie, aux États-Unis, découvre dans le local poubelle un homme nu, inconscient, allongé sur le sol. Ils préviennent la police, qui l'emmène à l'hôpital, et il se trouve que l'homme est amnésique. Il ne connaît pas son nom, il ne se reconnaît même pas dans le miroir. Il dit être né en août 1949, c'est une des rares certitudes qu'il a, et s'appelait Benjamin. Comme il est surnommé Becca à cause du Burger King, il choisit le pseudonyme Benjamin Kyle. Au niveau médical, il a trois creux au niveau du crâne qui pourraient indiquer des coups, et il souffre d'une cataracte aux deux yeux qui peut être liée à une longue exposition au soleil quand il était, puisqu'on ne sait pas combien de temps il est resté inconscient sur le sol de l'enclos à poubelle du Burger King. Mais c'est surtout au niveau psychologique qu'il a souffert, puisque, au-delà de son amnésie, il ne veut pas manger ou parler pendant des jours, il refuse qu'on le touche, notamment au niveau du torse, il se montre agressif avec les infirmières et le personnel médical, il dit qu'il a vécu dans les bois pendant des années, il traite le personnel médical de démon, et il est extrêmement hostile à tout soin. Petit à petit, il se calme et il revient à un niveau normal, mais on est sur un patient qui pose beaucoup de problèmes, donc il est envoyé en hôpital psychiatrique. Et il y a déjà des soupçons sur le fait que peut-être son amnésie est une feinte, et qu'il n'est pas vraiment amnésique, c'est un truc qui arrive notamment pour les gens qui veulent se sortir d'un mauvais pas avec la loi, et qui font mine de ne plus savoir qui ils sont. Parce qu'il se souvient notamment d'informations comme qui est le président, ou quelle équipe a gagné tel match en telle année, mais par contre il n'a aucune idée de qui il est, et il dit vraiment qu'il ne se reconnaît pas devant le miroir, et surtout qu'il pense être plus jeune que ce qu'il est. Quand il se voit dans le miroir, une fois qu'ils ont soigné sa cataracte au niveau des yeux, il voit un homme assez âgé, qui a plus de 50 ans, et dans sa tête il en a 30 en fait. Du coup il est très perturbé par son apparence.
Comme s'il avait purement et simplement oublié peut-être même une dizaine d'années de sa vie et qu'il aurait l'impression d'avoir vieilli d'un coup, quoi.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Et il a quand même très peu de souvenirs précis, donc à part sa date de naissance sur laquelle il est vraiment ferme et le fait qu'il a trois frères, il a des vagues, des bribes de aller à la foire avec son père quand il était petit ou des choses comme ça, mais c'est pas comme s'il disait « je me souviens de tout jusqu'en 79 », quoi. Vraiment, il n'a que très peu d'informations. Mais donc il reste en hôpital psychiatrique, où il est assez apprécié des infirmiers et des infirmières, parce qu'il est plus intelligent et sociable que la plupart des patients qui ont plus de mal à fonctionner en société, et il est toujours volontaire pour filer un coup de main, il devient en fait un genre d'employé officieux de l'hôpital, il se fabrique un genre d'uniforme avec des vêtements blancs, et une des théories c'est qu'en fait il a toujours besoin de se sentir occupé et de se rendre utile, puisqu'il n'a pas d'identité, et du coup il a beaucoup de mal à se construire une sensation de qui il est, donc,
ouais,
dès qu'il peut aider.
Ce qui est compréhensible.
Tout à fait. Il devient donc un membre à part entière de cette institution psychiatrique où il reste pendant des années. Et un jour, il y a une infirmière d'âge moyen qui s'appelle Catherine Slater qui décide de se mobiliser pour l'aider à trouver son identité. Je rappelle qu'on est dans les années 2000, hein, vraiment, on n'est pas en 1950. A priori, c'est dur d'imaginer que quelqu'un peut rester anonyme et amnésique très longtemps.
Est-ce que tu peux dire qu'il y a des tests ADN qui sont possibles pour retrouver...
Voilà, c'est... Ou que c'est possible de médiatiser une photo ou de lancer un truc à grande échelle. Donc elle est persuadée que qu'en quelques mois, elle l'aura aidé à trouver qui il est. Elle se trompe, clairement. En fait, la photo du gars est diffusée à la télé, elle est diffusée sur Internet, la police est sur le coup, le FBI, des journalistes, des détectives, et il n'y a rien. Personne ne dit le connaître pendant 10 ans, il n'y a aucun signe de qui est cette personne, et malgré une mobilisation à l'échelle nationale. Et c'est la première fois que le FBI enregistre comme une personne disparue quelqu'un dont on connaît l'emplacement, en fait. On sait où il est, on sait juste pas qui c'est. Donc par défaut, il est enregistré comme missing note person. Le problème, c'est que Benjamin Kyle n'a pas de numéro de sécu, et il peut pas avoir de numéro de sécu, puisque la sécu lui dit « vous en avez déjà un, mais vous l'avez oublié, et on peut pas le retrouver, puisque vous savez pas qui vous êtes ». Donc en fait, il est complètement invisible, il est dans un purgatoire administratif qui fait qu'il peut pas avoir d'identité, il peut pas se recréer une identité, puisque l'administration lui dit « vous êtes déjà quelqu'un, on va pas recréer une personne qui existe déjà ». Sauf que personne ne sait qui il est, donc c'est très compliqué pour lui, il peut pas avoir d'emploi. Donc en fait, il vit grâce à l'aide de l'infirmière qui finit par lui permettre d'emménager avec elle. Mais il peut pas avoir d'aide sociale et il peut pas se déclarer comme mort et reprendre une nouvelle vie puisque il ne sait pas qui il faudrait déclarer comme mort. Il est dans une situation qui est vraiment kafkaïenne. C'est vraiment le bureau administratif, la maison qui rend fou d'Astérix, quoi. Et sa situation n'existe pas. Et du coup, je pense que c'est pas de la faute des gens du bureau de l'aide sociale qui font ce qu'ils peuvent, mais clairement, sans des gens prêts à l'aider, il aurait pu mourir de faim et devenir sans abri, puisque il peut.
Enfin, c'est pas qui il est.
Il veut bien travailler, juste il peut pas, à part travailler au noir, quoi. Donc il vit avec l'infirmière et elle se rend compte qu'il est du genre, donc ce qu'on appelle aux États-Unis un hoarder. Donc quelqu'un qui a tendance à entasser les trucs, même les trucs qui servent à rien. Il entasse les catalogues, il entasse les briquets, il récupère plein de choses qu'il accumule comme pour se donner un sens d'existence physique. Et il commence plein de travaux qui finit pas en fait, ou dans des endroits où il n'y a pas vraiment besoin de travaux. Il décide de refaire le sol d'une pièce qui en a pas forcément besoin, donc il chamboule tout, mais pour toujours se tenir occupé. Et donc suite à la mobilisation de Catherine Slater qui a mis un petit peu son cas sur la place médiatique, il a été sélectionné pour participer à l'émission Dr. Phil, qui est une émission, un genre de talk show très très connu aux États-Unis. Mon chat qui miaule, voilà, il est pas content. Donc il y a participé en octobre 2008, et avant ça, en fait, c'était important pour les producteurs de s'assurer qu'il allait pas les arnaquer et qu'il mentait pas. Donc ils ont engagé un détective privé qui est un ancien gars du FBI à ses côtés, qui a passé des mois avec lui, à enquêter sur ce qu'il disait, à rencontrer toutes les personnes qu'il avait rencontrées donc après qu'il ait été retrouvé dans le Burger King, et il a conclu qu'il était à 90% sûr que Benjamin Kyle disait la vérité et qu'effectivement il est amnésique et qu'il n'est pas en train de cacher qui il est. Donc il a participé à l'émission, ce qui encore une fois a redonné de la visibilité à son cas, mais n'a pas débouché à une identification précise.
Ce qui est fou quand tu penses à l'exposition qu'apporte l'émission Dr. Phil, parce que nous, on ne s'en rend pas forcément compte en France, mais aux États-Unis, c'est une émission qui est vue par des millions de personnes. C'est une des émissions qui cartonne le plus à la télé américaine. Donc c'est fou.
C'est comme si, en France, dire qu'il n'est pas été reconnu. Je sais pas, on n'est pas couché, ou vivement dimanche, ou c'est cette ampleur-là de.
Ouais, c'est ça.
Plein de gens regardent, et en plus, on est à l'époque où il y a déjà Internet, quoi. Le mec a fait des AMA sur Reddit, donc un truc qui s'appelle Ask Me Anything, où quelqu'un qui a une histoire ou un parcours intéressant, ou un métier intrigant, ou qui est une célébrité, vient dire « je suis machin », il prouve à la modération « je suis bien machin », et donc il dit « demandez-moi ce que vous voulez », et il en a fait plusieurs, aussi dans l'espoir que des gens le
reconnaissent.
En 2009, donc quelques mois après Dr. Phil, il y a une femme qui s'appelle Colleen Fitzpatrick, qui se décrit elle-même comme une détective de la généalogie, donc qui se sert de la généalogie pour résoudre des enquêtes qu'on lui confie. Elle se penche sur l'affaire, et elle étudie notamment... les cicatrices de Benjamin Kyle, parce qu'il a pas de tatouage, il a pas de piercing, elle se dit peut-être que via les cicatrices on pourrait remonter à un cas qui a été traité par un hôpital ou quelque chose, mais bon, c'est pas très concluant. Par contre, elle se penche sur son ADN, et en fait, au lieu de faire ce que le FBI a fait, c'est-à-dire essayer de trouver des matchs sur son ADN à lui, pour dire c'est cette personne, elle essaye de trouver des liens familiaux. Donc elle prend son ADN et elle essaye de trouver des gens qui ont un ADN, qui indiquerait qu'ils sont de la même famille, et elle finit par aboutir à des liens avec une famille assez étendue, qui est même pas forcément sa famille directe, qui serait la famille Powell. Et en fait, à ce moment-là, Benjamin Kyle coupe tout contact avec elle, et il met fin à l'enquête. Il dit on arrête là. Donc c'est un petit peu shady. Pourquoi est-ce qu'il arrête au moment où ça se rapproche de cette famille? Et en fait, par la suite, il explique qu'il s'est senti assez exploité par la démarche de cette détective de la généalogie, qui notamment, elle refusait de lui laisser l'accès à ses propres informations ADN, elle refusait de partager avec des collègues qui auraient pu l'aider à avancer plus vite, et en fait, il se sentait vraiment exploité comme un genre de souris de laboratoire, et il avait l'impression qu'elle était plus là pour sa gloire personnelle d'avoir réussi à craquer le mystère Benjamin Kyle que par de l'empathie ou une volonté
ce
de l'aider.
Ce qui est, de ce que tu dis, plutôt le cas, globalement.
C'est pas impossible, et des personnes qui ont pu la côtoyer dans un cadre professionnel semblent corroborer que c'était peut-être ses intentions et qu'elle était peut-être plus là pour son gain personnel que pour l'aider. Alors, on peut se dire que si à la fin, elle arrive à l'identifier, c'est pas si grave, mais je comprends qu'un mec aussi fragilisé par la vie n'ait pas envie de se laisser manipuler.
Ouais, par une personne de plus, quoi.
Tout à fait. Benjamin K, il est parti. Et ils se sont plus jamais parlé. En fait, Benjamin Kyle est parti, il est allé en Floride, il a trouvé un job au noir dans un restaurant, Et notamment grâce à l'attention médiatique qui a fait qu'un journaliste a dit « Voilà, il y a ce mec, il est dans cette situation. Est-ce que quelqu'un veut bien lui donner du travail ?» Donc il s'est mis à bosser dans un restaurant et il s'est rendu compte qu'il connaissait bien le milieu d'une cuisine professionnelle, en fait.
Ouais, genre les gestes lui revenaient automatiquement.
Et même
quoi.
Les machines, il était là, oh, c'est un bon grill qu'ils ont et tout. Donc, nouvel indice, il a peut-être bossé dans
ouais,
un diner
t'es cuisinier,
ou un truc comme ça. Mais encore une fois, on n'est pas sur un truc hyper précis... Il n'a pas travaillé à la cuisine du Hilton entre 1982 et 1984.
Ouais, quoi. Bah, c'est un peu trop vague pour le moment.
Tout à fait. Et au sujet de son rapport en fait, à son identité, il a déclaré dans un excellent article du New Republic qui s'appelle The Last Unknown Man, qui est ma source principale pour cette histoire, qu'il ne sait pas en fait, si ses proches lui manquent puisqu'il ne se souvient pas d'eux. Et que de temps en temps, il continue à aller sur Internet et il regarde des rues sur Street View pour voir s'il y en a qui se baladent dans des rues via Street View de villes où il pense avoir vécu, pour voir s'il y en a qui lui disent quelque chose. Et il arrête assez vite parce que c'est frustrant. Et en fait, il explique que la seule raison pour laquelle il cherche encore son identité, c'est qu'il commence à être vieux, il a plus de 60 ans. Et bientôt, il pourra plus travailler. Et en fait, il aura besoin d'avoir un numéro de sécu pour avoir des aides aux personnes retraitées. Enfin, aux personnes
oui, âgées, c'est vrai qu'on pense pas à ça. Bah oui, effectivement.
En fait, il a un genre de compte à rebours qui fait que bientôt, il sera trop vieux, en tout cas pour le genre de métier qu'il peut exercer sans numéro de sécu. Et que il va être à la rue à 70 ans s'il a pas trouvé son identité, quoi. Mais il a pas beaucoup d'autres motivations que ça. Ce qui, encore une fois, peut se comprendre vu le trauma qu'il a vécu et le fait que ça fait. Bientôt, ouais, ça fait 10 ans à ce moment-là qu'il vit comme ça, donc...
Est-ce qu'il va finir par réussir à trouver quelque chose, quand même?
Oui.
Voilà, ça me rassure.
Cette histoire finit... Alors, je sais pas si on peut dire qu'elle finit bien, mais cette histoire ne finit pas en queue de poisson, puisqu'à la fin, on saura qui est Benjamin Kyle. Voilà. Mmh. On approche de la fin. Donc, en 2015, il y a une généalogiste qui avait travaillé avec Collins Fitzpatrick, la fameuse meuf avec laquelle Kyle avait coupé les ponts, et qui est une des personnes qui a corroboré le fait que Fitzpatrick était peut-être là pour son gain personnel. Donc cette généalogiste, la deuxième qui s'appelle Cici Moore, elle a décidé d'aider Benjamin Kyle, et elle a lancé des recherches, notamment toujours via ces histoires de famille dans l'ADN. En fait, elle a été aidée par une autre généalogiste qui fait partie de la famille Powell, donc la fameuse famille qui serait...
à laquelle il serait lié, ouais.
Voilà, d'une façon ou d'une autre. Et donc cette autre généalogiste, pendant une réunion de famille, elle a récupéré l'ADN de cousins éloignés, et ça a permis de tisser des branches qui étaient inconnues jusqu'alors dans l'arbre généalogique de Kyle.
Ouais, de spécifier de quelle partie de la famille il pourrait éventuellement venir, en fait.
Voilà, tout ça parce qu'elle faisait elle-même partie de la famille, donc elle était invitée au dîner de famille. Et en juin 2016, Cici Moore l'a trouvé. Elle a trouvé qui c'est, Benjamin Kyle. Donc elle l'a appelé pour lui dire, et elle a dit « Je t'ai trouvé, je sais qui t'es », et il a raccroché. Et il a été joint aussi par...
Cette nouvelle fait ronronner de plaisir ton chat.
Va-t'en, chat.
Je sais pas si on l'entend ronronner au micro.
Je pense qu'on l'entend, en vrai.
Ouais, on l'a bien entendu.
Voilà, un petit bout de
elle
chat
est
dans vos oreilles.
Très contente de savoir qu'on connaît l'identité de Benjamin Kyle.
Tout à fait, il a été retrouvé. Donc, visiblement, il est assez secoué par la nouvelle, et il finit par rappeler Cici Moore et rappeler le journaliste du New Republic qui a suivi ça, en fait, en direct. Il met une heure à les rappeler, mais on peut comprendre le besoin de se poser avec cette info. Pour l'histoire, Cici Moore, grâce à cette haute généalogie de la famille Powell, elle a réussi à remonter jusqu'à un album d'un lycée, du lycée Jefferson à Lafayette dans l'Indiana, et elle a trouvé Benjamin Kyle dedans. Il s'appelle William Burgess Powell. Ses parents sont tous les deux décédés, il a trois frères, comme il le disait. Il y a Furman Jr., Robert et Thomas, qui depuis est décédé. Et en fait, donc, l'histoire...
Aucun de ses frères ne l'a repéré chez Dr. Phil, quoi.
Non. En même temps, ils l'ont pas vu depuis très longtemps. Parce qu'en fait, en 1976, William a disparu et a arrêté de donner des nouvelles à qui que ce soit. Sa famille l'a un peu cherché, et il s'est trouvé qu'il avait déménagé et qu'il bossait comme cuisinier. Voilà, ce qui explique... sa connaissance du milieu de la cuisine professionnelle dans une ville du Colorado, à Boulder. Il a répondu à aucune lettre.
Qui est la ville de Stephen King, d'ailleurs.
Tout à fait, une des villes de Stephen King. Et il a répondu à aucune lettre, enfin, il avait vraiment une volonté, il était adulte, voilà. Quand t'es adulte, t'as le droit, t'es majeur et vacciné, t'as le droit de couper les ponts avec ta famille.
Et
si
de disparaître,
veux.
Si tu veux. Voilà. Sauf qu'il a tellement disparu que plus personne ne l'a retrouvé, quoi.
C'est ça. Et en fait, un de ses amis, avant qu'il disparaisse, a fini par être joint par le journaliste du New Republic. Il a expliqué qu'en gros ils étaient tous les deux pas mal alcooliques et que un soir ils avaient eu une petite rentrée d'argent et ils ont pris un genre de décision d'ivrogne en mode vas-y on se casse parce qu'ils avaient un boulot pareil, ils étaient déjà cuisiniers je pense, c'était vraiment pas important, ils ont dit vas-y on se casse on va où ? Je sais pas, au Colorado. Ok, et ils sont partis. Et en fait, ils sont partis comme ça, ce qui explique le côté un peu brutal, parce qu'en fait, quand t'es alcoolisé, tu prends pas des décisions extrêmement réfléchies et organisées. Et ils sont barrés, et William a décidé d'arrêter de communiquer avec sa famille. Et en fait, la dernière tentative de le retrouver, ça a été à la mort de sa mère en 1996, où ses frères ont essayé de le localiser pour tout ce qui est héritage, et puis aussi, maman est morte, est-ce que tu veux venir à l'enterrement ? Et en fait, c'était impossible de le retrouver, il avait plus... Enfin, il avait quitté depuis longtemps son... puisque c'était 20 ans après. Il avait quitté depuis longtemps son premier job dans le Colorado, et il n'y avait pas de... En fait, il a vécu une vie un peu au black, quoi. Il n'y avait pas de certificat de mariage, par exemple, il n'y avait pas de truc d'emploi.
Ah, donc il était intraçable, quoi.
Voilà, et en fait, si tu veux disparaître, t'as le droit de disparaître. Donc il s'était résigné au fait que comme il buvait beaucoup et qu'il n'avait pas un style de vie très sain, il était probablement mort à un moment.
Putain, c'est triste,
quoi. Et qu'il devait faire le deuil de leur frère, quoi. Et entre 1983 et la découverte de Benjamin Kyle, donc William Powell, en 2004, il n'y a eu aucune trace de lui dans l'administration, même une fois qu'on a su qui c'était et qu'ils ont remonté. Il vivait tellement en fait sous la surface de la société qu'il n'y avait pas une facture de téléphone, il n'y avait pas une fiche de paye, il n'y avait rien du tout.
Et lui ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé dans cette période-là ?
Non, lui, ses souvenirs lui sont jamais remontés en fait. Il a glissé dans une faille du système, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un moment, il a eu probablement à la suite de chocs sur la tête cette amnésie. Peut-être qu'il s'est fait agresser, que je sais pas, peut-être qu'il a eu des problèmes avec des gens louches qui ont fini par le lâcher à poil dans les poubelles d'un Burger King, ou que c'est lui qui s'est réfugié là pour avoir de l'ombre, on n'en sait rien. Il s'est réveillé, il était amnésique et en fait il récupérera jamais ses 20 ans de souvenirs, donc
putain, c'est fou.
Il sait pas du tout ce qui s'est passé. Il a fini en octobre 2015 par retrouver son frère Foreman une fois qu'il a appris sa nouvelle identité, et puis il a rencontré aussi d'autres membres de la famille. Et en fait, il est dans un... C'est très compliqué pour lui de réconcilier son cerveau et ce qu'il ressent, c'est-à-dire que son cerveau lui dit: c'est des gens de ta famille, tu les connais, tu les as déjà vus, t'as grandi avec ce frère, mais lui, il les reconnaît pas.
Alors, il n'y a pas d'affect qui se fait parce qu'il est...
C'est ça, en fait, il les croit parce que la science semble prouver et qu'ils auraient pas d'intérêt, tu vois, c'est pas des gens riches, lui n'est pas riche.
Ils ont rien à lui piquer, enfin, il y a...
Même, on pourrait penser qu'ils font ça pour la fame, parce qu'il y a des gens qui font des trucs chelous quand une histoire est médiatisée, mais a priori c'est vraiment son frère et c'est un gars un peu malade, un peu faible.
Vraiment des gens qui faisaient ça pour la fame, je pense qu'ils auraient réagi au moment où il y a eu la médiatisation avec Dr. Phil, Reddit, etc. quoi.
Et du coup, voilà, il a fini par emménager pas très loin de chez son frère, parce que son frère Foreman est assez malade, donc il peut plus trop gérer tout seul, donc William l'aide. Et... il vit avec un peu d'aide sociale, il est très pauvre, et il est vieux, et il peut pas travailler, donc en fait c'est une histoire finalement assez triste.
Ouais.
Et je trouve que ça a fait un bon écho avec l'affaire Taman Shoot, qui était donc ma première histoire, parce qu'en fait parfois, quand l'identité d'une personne est mystérieuse, une fois que tu sais, c'est décevant d'un point de vue de une histoire mystérieuse de nous, le public, mais même pour lui en fait, il n'y a pas de grand final, il n'y a pas de... mystère résolu, c'est juste...
Il y a juste de la tristesse et du...
Ouais, t'es ce mec-là, t'as eu une amnésie et en fait, t'es un peu mort à un moment aux yeux de la société. Finalement, t'es né à nouveau sous une nouvelle identité, celle de Benjamin Kyle. Et ensuite, t'es rené sous ta première identité, celle de William Powell. Et finalement, il n'y en a aucune qui est vraiment réelle pour toi et
ouais.
T'es là, quoi.
Bon, bah du coup, je pense que affaire classée, maintenant qu'on connaît...
Affaire classée, clairement.
Les mystères de Mortemer. On raconte que l'abbaye de Mortemer, dans l'Eure, est un des lieux les plus hantés de France. On y croiserait notamment une dame blanche qui terroriserait les visiteurs à la nuit tombée. C'est un sujet qui nous a été proposé plusieurs fois, et c'est quand même assez logique, puisque c'est, selon la légende, un des lieux les plus mystérieux de notre beau pays. L'abbaye de Mortemer, elle est située à Lisors, dans l'Eure, près de Lyon-la-Forêt. Big up à tous ceux qui sont là-bas. Et rien que le nom de Mortemer sonne plutôt étrange, en fait, en soi. Hein. Mortemer, le lieu, c'est quand même assez propice à l'imagination, surtout que quand tu vois à quoi ça ressemble, hein, ce sont des ruines assez isolées, plutôt austères, au milieu d'étangs couverts de brume. Donc c'est un véritable décor de film d'épouvante, quoi.
On dirait clairement le nom d'une cité balnéaire chelou dans Les Orphelins Baudelaire.
Exactement. Exactement. Et en plus, quand tu vois, enfin, je vous incite à aller taper Mortemer, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Effectivement, les lieux peuvent être plutôt inquiétants quand tu les vois comme ça. Et j'imagine qu'à la nuit tombée, on doit pas trop être à l'aise autour de l'abbaye, quoi. Alors, le plus célèbre des fantômes de Mortemer, c'est sans doute celui de Mathilde Lempresse. Mathilde Lempresse est morte en 1167, c'était la petite fille de Guillaume de Conquérant et la grand-mère de Richard Cœur de Lion. Elle a, comme on pouvait un petit peu s'en douter, connu un destin tragique lié plus ou moins à Mortemer. Elle a été mariée à 12 ans à Henri V, comme ça, mais ça se faisait plutôt à l'époque, visiblement. Henri V, c'était le futur empereur du Saint-Empire romain germanique. Puis ensuite, elle a été mariée une autre fois à Geoffroy V Plantagenet, et elle devait hériter du trône d'Angleterre. Mais comme les barons de son père ne voulaient pas d'elle parce que c'était une femme, voilà, le patriarcat comme d'habitude, c'est son cousin Étienne de Blois qui a récupéré le trône. Elle n'a eu aucun soutien, que ce soit de la part des barons ou de son propre mari, qui s'en foutait pas mal en fait de l'Angleterre. Elle aurait, à en croire, selon la légende de Mortemer, en tout cas, été enfermée à l'abbaye pendant 5 ans avant d'être dépossédée du trône d'Angleterre auquel elle prétendait. Et ça, forcément, ça a de quoi alimenter sa colère à Mathilde. Elle est devenue, selon la légende, la terrifiante Dame Blanche de Mortemer, et elle entrait encore aujourd'hui les fossés de l'abbaye. Et la voir la nuit serait un sinistre présage. On dit que si vous l'apercevez et qu'elle porte des gants noirs, vous mourrez dans l'année.
Rien que ça. Faut quand même la regarder de bien près pour voir la couleur de ses gants, quoi. Faut pas, genre, par exemple, faire caca et partir très vite.
Voilà, c'est ça.
Ce serait mon réflexe de survie numéro 1.
Mais c'est le réflexe de survie de tout le monde. Hein. Je pense que je vois une dame blanche, je prends la fuite très très vite, quoi. Alors, Jacqueline Caffin, la présidente de l'association qui s'occupe de Mortemer aujourd'hui, assure que c'est d'ailleurs ça s'est vraiment produit, l'histoire des gants noirs. Hein. Je vais dire ce qu'elle a dit à Géo, magazine Géo. Il y a une quinzaine d'années, l'une de nos employées qui travaillait à la billetterie affirma avoir vu, près de l'ancien cloître, une dame blanche gantée de noir. Elle ne voulut plus remettre les pieds à l'abbaye et démissionna. Et croyez-le ou non, dans les semaines qui suivirent, son mari m'annonça son décès. Un peu flippant, comme ça. Hein. On part sur un niveau de flip, voilà. Mais cette histoire-là ne tient absolument pas debout. Déjà, Mathilde Lempresse, elle est morte très loin de Mortemer, en 1167, et ses restes reposent aujourd'hui à la cathédrale de Rouen. Alors, comme le veut la tradition dans les histoires de fantômes, habituellement, un fantôme, il hante un lieu dans lequel il est enterré, ou en tout cas dans lequel il a très longtemps vécu. Là, l'histoire dit qu'elle aurait vécu 5 ans ici. C'est pas non plus un énorme motif de devenir un fantôme vengeur dans un lieu, quoi. Et en plus, il n'y a pas de trace d'une éventuelle incarcération un jour à l'abbaye pendant 5 ans. Tu regardes les documents historiques, tu ne les trouves pas. En revanche, elle a bien été à deux doigts de devenir reine d'Angleterre, et elle a beaucoup financé de son vivant l'ordre cistercien, et justement l'ordre cistercien, c'est celui qui dirigeait l'abbaye de Mortemer, puisque c'était une abbaye de moines cisterciens. Alors, maintenant qu'on a dit que l'histoire de Mathilde Lempresse était fausse, je vais m'attaquer aux autres légendes de Mortemer, car il n'y a pas que la Dame Blanche à Mortemer. Mortemer, c'est un lieu plein de mystères. Tout le monde en parle. Donc, l'abbaye a été fondée en 1134. Et elle a continué à grandir, comme ça, jusqu'au XVe siècle. Et ensuite, elle est tombée complètement en décrépitude à cause de la guerre de Cent Ans. À la Révolution, il y avait, selon la légende, plus que 4 vieux ermites à moitié fous qui vivaient à l'intérieur. Des vieux moines qui étaient restés là, tu sais pas pourquoi. Et on raconte qu'ils furent tués dans le cellier par des paysans qui prenaient part à la Révolution. Et selon la légende, leurs fantômes se baladent encore dans les caves. D'ailleurs, des officiers britanniques qui logeaient là pendant la Première Guerre mondiale ont certifié avoir vu les esprits des moines en train de boire du vin dans la cave.
Bah ça va, ils sont sympas.
C'est des moines.
C'est pas des fantômes méchants, quoi.
Eux, ils ont l'air plutôt gentils.
Les pauvres gars, ils étaient à moitié zinzin, à moitié sénile, et ils ont survécu à tous leurs potes et ils se font assassiner par des paysans. Je suis là, ouais, ok, bonne raison de hanter une abbaye. Ils connaissaient rien d'autre comme endroit où vivre.
Ça tient déjà beaucoup plus que Mathilde Lempresse, en tout cas, oui, comme histoire de fantôme. Il y a une autre des légendes de Mortemer qui concerne la Garache, c'est-à-dire une femme loup-garou. Le 1er janvier 1884, vers minuit, un chasseur aurait abattu d'un tir de carabine un monstre aux yeux phosphorescents. Et au lever du jour, il aurait réalisé qu'il s'agissait en fait de sa femme, qui était une loup-garou. Une autre des histoires de Mortemer qui ressemble plus là à des contes et légendes régionaux quand même. Hein. On peut aussi, selon les légendes, y croiser un gobelin qui prendrait l'apparence d'un chat, donc un chat un petit peu taquin globalement, hein. Et on pourrait, selon plusieurs sources, y trouver des miracles carrément. Parce qu'il y a une source à Mortemer dont le bruit évoquerait les sanglots de la martyre Sainte Catherine, donc Sainte Catherine qui s'occupe des... On connaît les Catherinettes, hein, les jeunes femmes qui veulent un mari. Donc son eau serait miraculeuse et permettrait de trouver l'amour. Et des jeunes femmes aujourd'hui viennent encore chaque année jeter une épingle à cheveux dans ce qu'on appelle aujourd'hui la fontaine des célibataires pour espérer trouver un mari dans l'année. C'est quand même fou. Donc ça, c'est plutôt du folklore. Et le grand mystère, le dernier mystère de Mortemer qui reste encore aujourd'hui, c'est celui de la Chambre Rose. Elle est située au premier étage d'une bâtisse qui a été construite sur les restes de l'ancien réfectoire des moines. Et dedans, il y a une toute petite pièce, cette Chambre Rose, avec un lit à baldaquin, donc entièrement tapissé de rose, d'où son nom. Et sur les murs, il y avait des petits tableaux, il y a toujours d'ailleurs des petits tableaux un petit peu macabres qui étaient très en vogue au 19e siècle, tu sais, des trucs un petit peu inquiétants, des paysages, des portraits d'enfants, des trucs comme ça.
Avec les yeux qui te suivent un peu quand tu marches, où t'as l'impression que peu importe où t'es dans la pièce, l'enfant il te regarde.
Exactement ce style de tableau.
Très bien, bonne déco.
Des fleurs malaisantes, voilà, et qui auraient été dessinées, dit-on, avec des cheveux d'enfants défunts.
Ah,
hein, on est encore moins à l'aise là. Eh bien, Jacqueline Caffin, donc je le rappelle, qui est la présidente de l'association qui s'occupe de Mortemer, loge parfois avec son mari dans un des appartements qui sont attenant à la Chambre Rose, donc juste à côté. Et il leur arrive d'entendre des bruits dans la maison, alors qu'ils sont seuls. Elle dit que cette Chambre Rose est vraiment à part et que personne n'ose y dormir. Alors selon elle, cette Chambre Rose a une histoire, évidemment, puisque a priori, tout a une histoire à Mortemer. Voici l'histoire. Le cauchemar a commencé avec la famille Delarue, des riches parisiens devenus propriétaires de l'abbaye au début du XXe siècle. Une nuit, la fiancée de Charles, un des fils, ne put dormir dans cette pièce. Près de la cheminée, les pincettes à feu s'étaient mises à claquer toutes seules et des tableaux à se retourner. La dulcinée rompit ses fiançailles. Voilà, ça c'est ce que racontait Jacqueline. Et après plusieurs phénomènes paranormaux dans ce genre-là, toujours selon Jacqueline, les Delarue auraient fini par faire exorciser Mortemer en 1921, sans succès, puisque a priori il y a toujours des histoires de fantômes autour de la bâtisse. Aujourd'hui encore, les lignes téléphoniques se mélangeraient et le courant subirait des baisses de tension assez inexplicables. Et ça, malgré la présence malgré les nombreux travaux qui ont été effectués, parce que voilà, Jacqueline Caffin s'occupe de l'abbaye, ils ont fait appel à des électriciens, des spécialistes qui sont revenus, et a priori, il y a toujours des baisses de tension qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et enfin, dans les années 90, il y a une journaliste qui s'appelle Muriel Mott qui a assuré qu'elle avait pris en photo un spectre à Mortemer. Et bon, ça a entretenu les légendes pendant quelques temps, mais ça a depuis été démontré. En fait, les clichés ne prouvaient absolument rien, c'était juste un effet de lumière, comme c'est souvent le cas avec les photos de spectres. Donc voilà, aujourd'hui on peut se dire que tout ça, c'est du flan, on s'en doute aujourd'hui. Et justement, c'est ce que raconte Fabrice Collin dans son excellent livre qui s'appelle L'Atlas de la France mystérieuse, que je conseille à tout le monde, qui revient sur une quarantaine de lieux mystérieux en France, notamment Mortemer. Et Fabrice Collin, lui, parle de légendes autogénérées pour Mortemer, je le cite. Lui, il pointe les nombreuses inexactitudes de l'histoire, parce qu'il y en a beaucoup. On ne sait pas qui est l'exorciste qui a purifié les lieux dans les années 20. Son nom n'est absolument jamais évoqué, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il précise aussi que sur un plan strictement historique, toutes les histoires autour de Mortemer sont invérifiables, c'est souvent le cas avec les contes et légendes. Et plus surprenant, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, on ne trouve aucune trace de ces histoires avant 1985. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1985? Eh bien c'est justement l'année où l'association qui gère Mortemer a créé son musée des légendes et fantômes dans le sous-sol de l'abbaye.
Comment que ça tombe bien, dis donc ?
Comme par hasard, n'est-ce pas ? Alors, pour apporter du crédit à leurs histoires, il y a un petit livre de 17 pages qui s'appelle « Les légendes de Mortemer » qui est paru en 1986, l'année suivante. Et son auteur n'est autre que Jacqueline Caffin, la présidente de l'association qui s'occupe de Mortemer.
Bah oui.
Comme par hasard, ça fait un faisceau d'indices quand même, assez machin. Donc voilà, on peut s'en douter, toutes ces histoires ont été créées pour faire un petit business autour de Mortemer, pour le placer sur la carte de la France, et c'est exactement ça. Alors il y a tout un business qui s'est mis en place à Mortemer, hein. C'est pas si cher que ça, hein. Ça coûte 6€ pour visiter l'abbaye aujourd'hui, et un supplément de 4€ pour la visite guidée du musée des légendes et fantômes.
De la Chambre Rose, est-ce qu'on peut la visiter ?
Non, la Chambre Rose, on ne peut pas la visiter malheureusement, mais ça m'étonnerait pas qu'ils créent une partie hôtellerie pour dormir près de la Chambre Rose, plus tard.
Tu sais, j'y crois pas, mais n'empêche que je le ferai pas.
Mais exactement.
De ce côté, je sais que c'est, en plus, c'est très clairement du mytho, plus que les autres histoires de fantômes, puisque comme tu dis, il y a une corrélation très simple à trouver entre l'origine, la première occurrence de ces histoires, et un intérêt qu'on pourrait trouver à raconter les histoires autour de ce lieu. Mais n'empêche que j'irai pas dormir dans la chambre creepy avec des dessins creepy d'enfants creepy.
Voilà. Mais tu sais que si un jour il l'ouvre, je pense que je proposerais ça comme destination vacances à Charles, pour qu'on aille y faire un tour ensemble, on aille se faire un petit week-end en amoureux là-bas.
Et bah vous me raconterez, et si vous arrive un truc, vous serez juste les mecs des 10 premières minutes de tous les films d'horreur du monde.
Ah oui.
On va dormir dans la chambre hantée, ça fera des belles histoires à raconter.
Et on ne les revit plus jamais.
Et non. Il y aura deux tableaux chelous au mur qui vous ressembleront un peu, tu sais.
Ah, ce serait horrible.
Ah
En tout cas, voilà, Ça coûte donc 10 € en cumulé pour faire l'abbaye et la visite du musée, mais pour ça tu peux, donc la visite dure 35 minutes, mais tu peux aller te balader en petit train sur les étangs, et ça c'est plutôt sympa, c'est inclus dans le billet. Donc
voilà, voilà.
Moi je pense me faire ça, et sinon, et c'est là que ça devient plus marrant, ils organisent aussi des visites nocturnes à la lueur de la bougie. Où tu peux venir avec ta lampe torche.
Oui.
Voilà.
Ouais,
c'est
toujours
plus
ça,
sympa. Ouais. Donc ça s'appelle la nuit des fantômes et la description sur le site officiel de l'abbaye m'a beaucoup plu. C'est très spooky. Hein. L'abbaye de Mortemer, éclairée par de multiples bougies qui se reflètent dans les étangs sinistres, offre une atmosphère irréelle, hors du temps. Chaque cri résonne à l'infini. Chaque rire éclate comme une prière contre les forces maléfiques. Est-ce que ça donne pas méga envie?
Non. J'ai lu Cimetière, c'était mon premier Stephen King, et il y a le mec qui traverse un marais à un moment en pleine nuit, et dans le marais, c'est un marais qui l'emmène vers le cimetière, un secret machin, il entend, donc déjà il porte un corps et tout, enfin le setup est assez glauque de base, et il entend des cris dans la brume, et son compagnon lui dit « Oh t'inquiète pas, c'est des animaux, leurs cris se répètent de façon un petit peu, du coup on dirait un peu des cris humains, mais t'inquiète pas », donc j'ai acheté là « Ok, bolos, bullshit », et après il entend des rires. Et il dit que c'est les rires le pire. Du coup, je n'irai pas dans un étang la nuit entendre des gens qui rient, comme une prière mystérieuse ou je ne sais quoi.
Alors, c'est comme une prière contre les forces maléfiques.
Voilà, je pense qu'un rire ne suffit pas contre les forces maléfiques.
Non, bah écoute, voilà. En tout cas, ce tour-là dure 1h40 et lui coûte 13 €. Donc là, on rentre plus dans la partie business quand même. Mais c'est, dit-on, un véritable spectacle avec des acteurs déguisés en fantômes et tout le tralala. Ça a l'air plutôt marrant à faire en vrai.
Quand tu dis dit-on, est-ce que c'est Jacqueline qui dit ou est-ce que c'est des gens qui l'ont fait qui disent?
C'est Jacqueline qui dit.
Okay.
C'est le site officiel qui dit. Enfin, c'est Jacqueline et pas que Jacqueline en fait, parce que tout le concept des fantômes autour de Mortemer, c'est un concept qui a été créé par un artiste qui est en résidence à Mortemer depuis des années maintenant, je saurais pas combien exactement, mais ça fait très longtemps qu'il est là. Il s'appelle Vitas Krogelis et c'est lui qui a créé ça. Il a créé aussi des spectacles qui à côté, notamment une pièce de théâtre sur la vie de Mathilde Lamprès qui s'est jouée à Mortemer, je crois, l'été dernier. Et c'est lui qui organise aussi des fêtes médiévales à l'abbaye de Mortemer. Donc en fait, tout ça est soutenu en plus par le département et par la région, hein, donc il y a des subventions, etc. C'est devenu un vrai lieu culturel, l'abbaye de Mortemer aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai regardé le planning, en juillet-août 2018, là, il va y avoir pas mal d'animations, hein, des spectacles, des soirées fantomatiques. Enfin, c'est vraiment un lieu qui vit, pas mal. Donc le niveau de mystère, malheureusement, aujourd'hui, est pas élevé du tout. Après vérification, mais les personnes qui ont créé la légende étaient quand même vachement malines parce qu'ils ont quand même réussi à faire de stade ruine auquel personne vraiment s'intéressait une abbaye célèbre et vraiment une vraie attraction dans la région et même à l'échelle de la France, parce que voilà, nous on nous l'a suggéré plusieurs fois dans l'émission, donc c'est preuve qu'on entend parler de Mortemer et les gens ont entendu parler des mystères autour de ce lieu là quoi. Donc je trouve ça plutôt cool.
Big up Jacqueline, ouais. Bien bossé.
Franchement, ils ont super bien bossé. Et donc, bon, l'affaire aujourd'hui est classée complètement. Mais une fois que Charles sera de retour, et bon, toi, je pense que tu ne voudras pas venir avec nous, malheureusement.
Non,
mais tout ce qui est lui hanté, c'est compliqué. Non. J'ai très envie de proposer à Charles d'aller faire un petit week-end là-bas.
On enverra une carte postale.
Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir écouté. Est-ce que ça t'a plu, Mimi, de participer à la vie du Bureau?
Oui, ça m'a beaucoup plu. Et je pense que c'est une case à cocher dans ma bucket list informelle de la vie, c'est venir parler dans un podcast de mes mystères préférés. Je suis très contente, donc merci pour l'invitation.
Merci à toi de l'avoir accepté, surtout. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Charles et Mathias, sur Facebook, ou alors sur Twitter, le compte BDM le podcast, @BDM le podcast. Et toi, Mimo, est-ce qu'on pourrait te retrouver?
Alors, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Mimi Mademoiselle, sur Twitter, @MimiMYMYHGL. Et si vous voulez écouter mon podcast The Boys Club, ça se passe sur YouTube. The Boys Club, c'est le nom de la chaîne, et sur toutes les applis de podcast, et sur Spotify maintenant.
Super bien. On espère y être un jour. Nous, vous pouvez retrouver le Bureau des Mystères sur Riviera Ferraille, car le Bureau des Mystères est un podcast Riviera Ferraille. Et d'ici là, avant le prochain numéro, pensez à bien garder vos chiens en laisse.